C'est le groupe d'Amnesty Évreux qui fait son émission mensuelle. Donc, le dernier mardi du mois, aujourd'hui, c'est le 29. Et on est très heureux de vous retrouver toutes et tous à l'écoute, soit en direct, soit en podcast, de l'actualité des droits humains. Nous vous rappelons que nous sommes pour une heure d'antenne pour vous informer de l'actualité donc, qui touche tous les droits humains, que ce soit international, national ou l'actualité locale. On est là pour ça. On va essayer de parler du maximum de choses. Et comme tous les jours, enfin comme toutes nos émissions, c'est pas tous les jours, mais quand même à toutes nos
comme
émissions.
Comme tous les mois.
Comme tous les mois, nous avons un ordre du jour, enfin un fil conducteur qui est extrêmement chargé. Donc on va commencer par vous parler de notre actualité locale très récente, ce qu'on a fait au mois de
bonsoir.
Mai.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Et on est là.
C'était la vanne amicale des autres qui m'ont fait comprendre que j'avais encore oublié de présenter les gens. Ça m'arrive à peu près une fois sur deux.
Souris pour la photo.
Une fois sur deux. Donc ce soir, nous avons Renan à la technique.
Bonsoir.
Nous avons Sabine.
Bonsoir.
Nous avons Edith.
Bonsoir.
Et moi-même qui ai pris la parole intempestivement, Didier.
Lui-même, c'est Didier, oui.
Voilà. Donc, notre actualité locale, comme je vous le disais, de nos activités du mois de mai, qui a été assez chargée pour nous. Ensuite, nous allons faire un point d'actualité sur une actualité brûlante, dans tous les sens du terme, malheureusement, sur les pays arabes, l'Afrique du Nord, la Syrie, la Libye. On va vous parler aussi de l'Algérie. Bien sûr, encore une fois, il se passe des drames là-bas, principalement en Syrie, il se passe des drames là-bas et on ne peut pas ne pas en parler, c'est bien évident, ça nous concerne directement et ça concerne directement la lutte pour les droits humains. On va vous parler également d'un petit quiz, spécialité d'Edith. Edith, elle aime bien les quiz, elle a déjà fait ça, mais elle va revenir.
Et les auditeurs, ils savent plein de choses et puis on leur en donne encore plus à apprendre.
Voilà. C'est un petit quiz sur les réfugiés. Donc, révisez vos connaissances sur les réfugiés. Tout à l'heure, on vous pose des colles. Ensuite,
des bonnes nouvelles.
Des bonnes nouvelles.
Allez, un petit peu, voilà. entre deux.
Des bonnes nouvelles. On vous fera la surprise desquelles. Effectivement, c'est Renan, spécialiste des bonnes nouvelles, qui vous fera ça.
Pour l'instant, je suis photographe.
Pour l'instant, il est photographe.
Oui, parce qu'en plus, on est pris en photo.
Voilà.
C'est pas très radiophonique, ça.
Je ne sais
plus, moi, la photo à la radio, c'est trop compliqué, il faut peut-être se taire.
Et quoi d'autre quoi
On
d'autre.
A toujours notre bonne humeur.
Oui, quoi d'autre y a...
Oh, après, vous allez voir.
Il y a également Edith. Non, mais c'est bien de dire ce qu'on va
faire. Non, la surprise, c'est bien aussi.
Oui, mais il y a Edith aussi qui va vous parler de l'indépendance financière d'Amnesty International.
C'est
fondamentalement important, puisque Amnesty
s'autofinance
à 100%, d'où ça vient. Mais
dis pas tout. Attends.
Je dis pas tout, mais c'est pour expliquer un minimum aux gens, quand même. Voilà.
Et après, l'actualité future du groupe.
L'actualité future du groupe, on terminera par ça, effectivement, comme à chaque fois. Notre actualité récente, on a eu deux manifestations importantes au mois de mai.
Vous êtes venu nous voir ?
J'espère. Mais là aussi, on a les noms, hein, vous inquiétez pas, même ceux qui nous écoutent, on a les noms de ceux qui, et tous ceux qui n'auront pas de mots d'absence seront marqués sur les listes rouges.
Ah, il y en a qui ont regretté après de ne pas être venus.
Voilà. Donc, on était au cinéma le 15 mai pour une soirée assez extraordinaire, je dirais, dans tous les sens du terme, de présentation des 12 films faits par les élèves du lycée Léopold Sédar Senghor sur le marathon des signatures. Tous ceux qui ont vu ces films ont été impressionnés par la qualité du message, par la qualité technique et par la qualité tout court du travail de cette classe de seconde, encadrée par Stéphane Maître. Donc encore merci à tout le monde, encore un énorme merci à Stéphane d'avoir mené de bout en bout ce travail avec ses élèves. Et maintenant, après avoir été projetés au cinéma, les films commencent à être diffusés, même commencent à être bien diffusés au sein d'Amnesty International, sous forme de DVD et de commandes de DVD que je reçois. Il y a pas mal de groupes et pas mal de régions qui les projettent dans différentes manifestations, donc les films continuent à vivre par eux-mêmes. Et c'est tout ce qu'on espérait, donc ça se passe très très bien. Encore une fois, c'est un travail extraordinaire. Et pour sans fausse modestie, on a reçu un petit mail du responsable des 12 cas, qui s'appelle Nicolas Crameyer à Paris, du responsable des 12 cas, et qui nous a dit c'est un des plus beaux, si ce n'est le plus beau travail d'éducation aux droits humains que je n'ai jamais vu au sein de la section française depuis que j'y suis. Donc
alors,
voilà,
on a un grand bravo à tous ces jeunes.
Voilà, parce que c'est eux qui ont fourni.
Comment ils ont fait un travail fabuleux.
Voilà.
Et ils auraient dû signer des droits d'auteur parce que c'est tellement demandé.
Non, non, c'est diffusé sans aucun droit.
Mais je plaisante.
Donc la copie est non seulement possible, mais elle est souhaitable et elle est faite et elle est diffusée.
Voilà, et alors sur Évreux, si vous voulez le voir, si vous l'avez loupé, dites-le nous.
Tout à fait, on peut réenvisager de les repasser à un autre moment.
Je crois que tu as surpris Didier sur ce truc-là.
Il faut le surprendre.
Mais c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé à l'avant.
Il y a plein de gens qui nous écoutent.
Bon, sur place, au cinéma, on a eu plus de 300 signatures parce qu'on faisait signer les pétitions sur ces 12 cas, qui sont des cas qui durent une année, donc ils ont commencé en décembre 2011 jusqu'en décembre 2012. Et on a eu plus de 300 signatures de soutien.
Donc ça, chapeau aussi. Merci.
Pour ces 12 atteintes aux droits fondamentaux. Et notre autre grosse actualité, c'était le dimanche qui suivait, donc grosse semaine pour nous. C'était dimanche, pas dimanche dernier, mais celui d'avant. Le 20 mai, à la Halle des Expositions, on a fait notre exposition. Bon, on savait que la date n'était pas très bonne. Pour différentes raisons, disons, qui dépassent notre volonté, on a commencé l'organisation très très tard de la manifestation. Et donc, ça a été, disons, pour nous, une petite exposition au niveau de l'impact du public. Malgré tout, ça a été une journée sympa. Là aussi, on a quand même pu obtenir plus de 300 signatures sur les pétitions qu'on a proposées, donc c'est loin d'être négligeable. Et c'est une journée. On refera l'année prochaine l'exposition, mais sans doute à une date beaucoup plus classique, au mois de novembre. Et encore une fois, merci à tous ceux qui sont venus. Merci, un grand merci aux artisans qui se sont dérangés en soutien pour nous. Certains ont sans doute très peu vendu sur un plan commercial, mais ils sont toujours prêts à venir pour nous soutenir. Donc, merci à eux. Et puis, merci au public qui s'est déplacé. Et puis, merci à tous les militants, soit qui sont présents autour du micro, soit qui sont présents dans le groupe. Merci à tous les militants qui ont rendu encore une fois cette manifestation possible. Voilà. On vous reparlera de l'Expo 2012 qu'on préparera bien en amont.
Plus tranquillement.
2013,
oui, parce que 2012,
2012 c'était cette année.
C'est fait.
Je me trompe dans les dates. Voilà. Donc, ça, c'est notre actualité locale passée. Ensuite, on va vous parler de l'actualité tout court, c'est-à-dire le drame qui est en train de se dérouler en Syrie. L'armée syrienne qui tire sur son propre peuple et un État qui est passible de crimes contre l'humanité. Mais Edith va vous en dire plus.
Voilà, moi je vais simplement... Bon, la Syrie, on en a... Justement, à l'Expo, on avait essayé de faire un panneau pour présenter tout ce qui se passait dans les pays arabes depuis un an. Et la Syrie, il y a des documents qui sortent, il y a des gens qui vont voir, aussi bien d'Amnesty, d'Human Rights Watch, qui vont ramener des témoignages. Et là, c'est vrai que ce qui s'est passé ce week-end à Houla, c'est vrai que je crois que tout le monde a été encore plus figé dans cette horreur. Donc Amnesty a sorti un communiqué de presse et je vais pratiquement vous le lire parce que je pense que tout est important et on peut voir un peu comment est-ce qu'on pourrait faire que ça s'arrête parce que manifestement, on n'en est pas encore à ce niveau-là et les gens continuent à se faire tuer. Donc le massacre de Houla. Selon les militants locaux, les violences ont éclaté à Houla après que des soldats stationnés à hauteur d'un poste de contrôle militaire syrien eurent ouvert le feu sur des manifestations pacifiques le vendredi 26 mai dans l'après-midi, poussant les membres de l'opposition armée à attaquer le poste de contrôle. Un nombre non confirmé de personnes ont perdu la vie lors de ces échanges de tirs. On ne sait pas avec certitude où les membres de l'opposition armée se sont repliés après ces affrontements. Un témoin a déclaré à Amnesty qu'environ entre 20h et minuit, vendredi soir, l'armée syrienne a tiré des obus d'artillerie et des roquettes vers plusieurs zones de Houla à un rythme atteignant parfois un impact par minute. Il a ajouté que des hommes en uniforme noir, semblant appartenir au service de renseignement syrien, ont effectué des raids armés à Tel Dos, donc c'est à côté, abattant des dizaines de civils. Lorsque les observateurs des Nations Unies sont arrivés sur les lieux le lendemain matin, ils ont aidé les résidents à porter les corps jusqu'à la mosquée voisine. Plusieurs corps n'ont pu être récupérés en raison de la présence constante des forces de sécurité syriennes. 62 des personnes tuées appartenaient à la famille Abd al-Razak de Tel Dos. Toutes ont été tuées par balles, sauf quelques enfants ayant eu le crâne fracassé, sans doute par des crosses de fusil. De nombreux hommes auraient fui la zone en avance, à la suite de rumeurs selon lesquelles ils seraient pris pour cible d'une attaque imminente. Certaines personnes manquent, semble-t-il, toujours à l'appel depuis l'attaque de vendredi contre Houla. On ignore si elles ont fui ou si elles ont été enlevées. Ces derniers jours, les militants affirment que la présence des personnels de sécurité autour de la ville s'est intensifiée. 4 postes de contrôle militaire ayant été érigés le long de la route principale. Dimanche 27 mai, Sana, l'agence de presse officielle, a diffusé une déclaration attribuant les morts de Houla à des groupes terroristes liés à Al-Qaïda. Ce jour même, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a affirmé qu'une commission judiciaire militaire avait été créée afin d'enquêter sur ces événements. Alors Philippe Luther, qui fait partie d'Amnesty et qui est le directeur de programme Moyen-Orient, dit « Les précédentes enquêtes internes que les autorités disent avoir menées ne font espérer aucun résultat significatif à l'issue de celle-ci. Nous n'avons connaissance actuellement d'aucune traduction en justice d'auteurs présumés de violations appartenant aux forces du régime depuis le début de ces 14 mois de protestations et de troubles. » Dimanche 27, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné les attaques ayant visé Houla, qui, a-t-il précisé, impliquait une série de bombardements par des tanks et l'artillerie gouvernementale contre un quartier résidentiel. Mais le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a toujours pas pris de mesures concrètes pour prévenir de nouvelles attaques. Le Conseil de sécurité doit aller au-delà de la simple condamnation de l'attaque, qui s'est soldé par des dizaines de décès parmi les civils, et qu'il doit immédiatement confier le dossier à la Cour pénale internationale. Voilà, c'est ce que demande Amnesty, donc la Cour pénale internationale, CPI. Bon, la Russie, actuellement, bloque tout ce qui peut se passer au Conseil de sécurité. Donc, ce qu'on demande aussi, c'est qu'elle ne doit pas empêcher le Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des mesures énergiques afin de mettre un terme aux souffrances de la Syrie.
Et pour cause, elle fournit les armes.
Elle et la France et d'autres. Voilà, mais ça c'est
surtout,
le problème de
la Russie.
De l'arme. Voilà, il faut surtout que la Russie soutienne la saisine de la CPI, donc du tribunal international. Dès le mois d'avril, Amnesty a dénoncé les crimes contre l'humanité commis dans le cadre de la répression gouvernementale qui vise les manifestants depuis mars 2011. L'organisation a demandé à plusieurs reprises aux Nations Unies de porter devant la CPI, la situation de sécurité en pleine désintégration de Syrie, et a clairement indiqué que les crimes perpétrés relevaient de la compétence universelle. Amnesty a recueilli le nom de 9750 personnes tuées depuis le début des troubles, parmi lesquelles figurent 700 mineurs. Depuis l'arrivée des observateurs, Amnesty a répertorié le nom de plus de 3300 personnes tuées en Syrie. Depuis le 14 avril. Voilà où on en est. Donc, il faut absolument agir.
Bien. Après ce moment un peu assez
c'est dur de
assez
reprendre émouvant. Derrière.
Oui,
voilà,
c'est assez dur, effectivement, de reprendre derrière. Il y a Sabine qui voulait vous parler aussi d'un petit mot sur la Libye. La situation en Libye.
Grosse frustration aussi. Hein. Comme ils disent, on ne s'est pas battu pour ça.
Alors, la Libye, on reprécise quand même, le régime a changé. On n'est pas dans le même contexte que la Syrie ou là.
Bien sûr.
Voilà, c'est ça.
On se souvient très bien que Kadhafi, effectivement, a disparu de la scène politique.
Problème endémique de la violence et de la torture dans la nouvelle Libye. Depuis le printemps 2011, Amnesty International a rencontré d'innombrables personnes disant avoir été victimes de coups, de décharges électriques, de menaces de mort et d'autres formes de mauvais traitements dans les centres de détention gérés par les milices armées anti-Kadhafi. Pardiana Etaloué, spécialiste de la Libye à Amnesty International, qui nous dit « Ce n'est un secret pour personne que les violences physiques et la torture ont pris une ampleur endémique dans la Libye post-Kadhafi. Hier, elle avait rencontré Mohamed, nom qui a été changé, arrêté et torturé par des miliciens de Misrata le 16 octobre 2011. Ses bras restent couverts de cicatrices. Après l'avoir sauvagement fouetté pendant environ 1h30, ses hommes armés ont maintenu un morceau de métal brûlant contre sa peau. Il a plus tard été blessé par balle aux jambes, puis laissé sans soin dans un conteneur métallique pendant plusieurs jours. Il a déclaré que lorsque ses blessures ont enfin été nettoyées, une infection si grave s'était développée que les plaies grouillaient de verre. Aujourd'hui, il est incapable de marcher. Un autre homme, toujours aux mains d'une milice armée dans l'ouest du pays, leur a dit qu'il avait été frappé à coups de fil et de câbles métalliques sur tout le corps début mai. À l'autre bout de la cellule, un homme trop effrayé pour se plaindre a désigné ses propres blessures, murmurant qu'elles résultaient d'un récent passage à tabac. Depuis que les forces anti-Kadhafi ont pris le contrôle de Tripoli, en août 2011, Amnesty International a recensé une vingtaine de morts consécutives à des actes de torture en détention. Cette semaine, il a été rencontré la famille d'une de ses victimes, Imad Salem Ali Akila, un soldat de 33 ans qui appartenait aux forces loyales de Muammar Kadhafi. Il est mort le 20 février. Ses parents ont entendu dire qu'un groupe d'hommes armés était venu une nuit à la prison de Yadem à Al-Zawiya, où il était détenu et l'avait battu à mort. Si la prison de Jdayem est placée sous l'autorité du ministère de la Justice, les gardes n'ont pas empêché ces miliciens armés d'y entrer et d'exercer des représailles. Une autre famille a été rencontrée, portant le deuil d'un proche mort sous la torture, qui était décédé le 3 mai 2012 dans un hôpital de Tripoli environ 6 semaines, après qu'un groupe d'hommes armés l'ait enlevé dans la rue, près de son domicile dans cette même ville. Malgré tous leurs efforts, ses parents n'ont pas pu lui rendre visite en détention. Ils ont plus tard retrouvé son corps à l'hôpital, le crâne fracturé. Ils ont examiné les rapports médico-légaux confirmant les dires de ces familles endeuillées. Les femmes sont également dans la ligne de mire. Les milices armées s'en prennent aux femmes, fait confirmer par 3 d'entre elles avec qui ils ont discuté, tandis qu'elles se remettaient d'actes de torture. L'une a reçu des décharges électriques et a été frappée sur tout le corps. Une autre était couverte de brûlures graves après que les miliciens l'eurent plongée dans de l'eau bouillante, et la troisième avait été suspendue et battue à coups de fil métallique. Toutes les trois ont été libérées sans inculpation. L'une d'elles a été assez courageuse pour porter plainte auprès du parquet général. Depuis lors, elle reçoit des appels téléphoniques menaçants, la mettant en garde contre de terribles conséquences si elle ne retire pas sa plainte. Les autorités visées par les milices, des procureurs et d'autres représentants des autorités judiciaires et des forces de sécurité sont également victimes de menaces, de manœuvres de coercition et même de violences. Leurs agresseurs appartiennent à des groupes armés. Un policier d'Al-Zawiya m'a dit recevoir fréquemment des menaces verbales visant à le dissuader d'enquêter sur des cas de torture. La maison d'un de ses collègues a été visitée par des coups de feu et un engin explosif artisanal a été jeté à l'intérieur de celle-ci dans une nuit d'avril. Malgré cette accumulation d'éléments, les membres du Conseil national de transition soutiennent que les coups et la torture ne sont pas systématiques et que la situation est en cours d'amélioration. L'impunité règne. Cependant, à ce jour, aucun tueur, nom désignant communément les combattants anti-Kadhafi, n'a eu à rendre de compte pour avoir torturé ou autrement maltraité des détenus. Au lieu de cela, il bénéficie d'une impunité de poursuite, ce qui ne fait qu'asseoir davantage le climat d'impunité ayant caractérisé la Libye pendant les 4 décennies du régime Kadhafi. On reproduit exactement la même chose. Un combattant anti-Kadhafi a déclaré à Amnesty International qu'il avait été privé de liberté pendant plusieurs heures par des hommes armés à Tripoli. Ces hommes lui ont tiré dans la jambe, puis ont frappé sa plaie, à coups de pied notamment. Il n'a été libéré qu'après l'intervention de sa propre milice armée. Un autre combattant anti-Kadhafi, dont 2 frères ont été arrêtés et torturés par des milices armées ces 6 derniers mois, s'est dit abasourdi et scandalisé par le chemin pris par la nouvelle Libye en ce qui concerne les droits humains. Il a déclaré « J'ai quitté ma famille, risqué ma vie. Je suis allé au front avec l'espoir d'un avenir meilleur pour la liberté, la dignité et l'état de droit. Ce qui se passe actuellement en Libye, on ne s'est pas battu et sacrifié pour ça. » Donc je vous conseille. Donc on avait espoir que ça change, mais malheureusement... L'histoire se répète. Alors allez signer, il y a des pétitions sur Internet. Signez le message à l'ambassadeur de Libye en France sur le site amnestyinternational.fr. Allez-y parce que c'est important et il faut que ça cesse aussi. Voilà, donc
Il y a du travail.
On y a cru, mais bon.
Voilà, mais il y a des gens encore qui y croient et il faut les soutenir.
Il faut y croire.
Faut pas le mettre au passé, Sabine, même si, mais effectivement.
Le... Oui, mais voilà. Bon,
il y a des atteintes aux droits humains. Il y a un climat d'impunité. Il y a des gens qui essayent.
Malheureusement.
Qui essayent de bouger encore.
Donc, il faut continuer à signer parce que ça ne peut pas passer inaperçu encore une fois.
Et de toute façon, Amnesty sera toujours présente tant que ce genre de choses continuera à exister. Si des gens qui répriment ne lâchent pas, nous non plus. C'est le message qu'on peut faire passer.
Et si vous voulez en savoir plus, les témoignages, il y en a beaucoup. On ne vous les a pas tous lus et il y en a beaucoup.
Non, pensez-vous en lire d'autres, mais c'est vrai qu'on va...
Voilà, on va... un peu de musique.
Une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle. Et après la musique.
Quelque chose de positif après cette nouvelle
un peu dure.
Monsieur Bonne Nouvelle, Rodin.
Une bonne nouvelle. Donc, après 4 ans de campagne mondiale, Patrick Okorafor, condamné à mort à 16 ans au Nigeria, est enfin libre. Patrick, un Nigérien de 31 ans, condamné à mort étant mineur, a exprimé sa joie d'être libéré de prison et de retrouver sa famille après tant de temps. À la suite d'une campagne mondiale menée sans relâche par Amnesty International, il n'avait que 14 ans quand il a été arrêté en 1995 et 16 ans lorsqu'il a été condamné à mort pour vol à main armée. Un délit qu'il assure ne pas avoir commis. Amnesty International considère que son procès était contraire aux règles d'équité les plus élémentaires et a demandé à maintes reprises sa libération immédiate et sans condition. Et une fois libéré, Patrick a déclaré « Lorsqu'Amnesty International a lancé son appel en faveur de ma libération de prison et après avoir lu certaines des milliers de lettres, cartes et messages que m'avaient envoyés ses sympathisants, j'ai commencé à espérer être libre dans un avenir pas trop lointain. »
C'est une bonne nouvelle. C'est pareil. Patrick a fait partie des défenseurs pour lesquels on a travaillé pendant une année, il y a 2 ans.
Si je ne me trompe pas, sur le site d'Amnesty, hier je lisais, je crois que la première pétition, je crois que c'était en 95 ou 96.
Alors, on ne lâche pas. Hein. Et là, c'était complètement injuste. Et on a vu une phrase moi, qui m'avait marquée, c'était « Il restait en prison pour le bon plaisir du gouverneur ». Il n'y avait pas d'autre raison que ça.
Oui, parce qu'il était dans le marathon des signatures.
Voilà, il y a 2 ans.
Il y a 2 ans, tout à fait.
Donc, bonne nouvelle pour lui, on est content.
Ça fait du bien comme d'entendre quelques petites bonnes
nouvelles. Et une information pour varier de ce qui a été dit juste avant, c'est qu'Amnesty, ça marche.
Ah oui. Bah oui. Ça met du temps, mais ça marche et on reste vigilant.
Ça met 14 ans, et
les témoignages, là, tout ce qu'on peut savoir, c'est que toutes les lettres, tous les témoignages, ça aide énormément ces gens qui sont en prison, qui sont injustement accusés.
Dans la lettre qu'on avait lue justement le mois dernier concernant le Turc, je ne m'appelle plus de son nom, c'est vrai que ça prouvait, il remerciait Amnesty parce qu'il recevait... Enfin, quand on se rend compte, parce que les gens disent toujours pourquoi on écrit, mais on se rend compte que les gens, même dans la prison, ils sont au courant des lettres qui arrivent et que ça fait bouger.
Et, c'est tellement pour leur morale à eux aussi de se dire on n'est pas seul, ça c'est ailleurs.
Tous les prisonniers libérés le disent.
Allez, musique.
Musique, oui, effectivement.
Cause it was here. You can do with it whatever you please. And if things don't change soon, he will. Oh man, isn't that it is done? Her step while touching the moon. Now there's a woman on my block. She just sits there. As this night goes still, saying, who's gonna take away?
Who's gonna take away?
Who's gonna take away?
Who's gonna take away?
His license to kill. But now they're taking and they're teaching, and they're growing for life, and they're setting on a path where he's bound to get ill. Will they bury him with stars? Sell his body like they do his cars. Now there's a woman on my block. Just sits there, facing the hill, saying, who's gonna take away?
Who's gonna take away?
Who's gonna take away?
Who's gonna take away?
license to kill. Now he's hell-bent for destruction. He's afraid and confused, and his brain is been mismanaged with great skill. All he believes are his eyes, and his eyes that just tell him lies. But there's a woman on my block sitting in a cold chill, saying who's gonna take away,
who's gonna take away,
who's gonna take away,
who's gonna take away
his license to kill.
Maybe I
always make a spirit make a heart break,
backbreaker.
Leave no stone unturned. Maybe an actor in a plot, that might be all that you got. Till you ever, till you ever, clearly run. Now he worships at an altar. I'm standing in the pool when he sees his reflection. He's fulfilled. Wants it all and he wants it his way. Now there's a woman on my block. She just sits there as the night grows still. Saying, who's gonna take away?
Who's gonna take away?
Who's gonna take away?
Who's gonna take away?
Who's license to kill?
Eh bien, nous voilà de retour sur l'antenne de Principe Actif. On va quand même annoncer la musique. Enfin, oui, je ne sais pas comment quel est le terme de radio, ce n'est pas annoncé, mais enfin bon. C'est un disque qu'on vous conseille tous d'acheter, qui est sorti au mois de février, qui est maintenant disponible en France depuis le mois de mars ou avril, qui s'appelle Chimes of Freedom, les carillons de la liberté. Un quadruple album réalisé par Amnesty USA, 70 chansons, voire plus, de reprises de Bob Dylan, par toute une série d'artistes. La liste est beaucoup trop longue pour qu'on vous la cite.
Mais il y a 70 artistes, 70 voilà. Chansons, 70 artistes.
Voilà, et dont Bob Dylan, bien sûr. Et donc, celle qu'on vient d'entendre, que je vous la retrouve, s'appelait License to Kill, et c'était interprété par Elvis Costello. Donc ce disque, on vous le recommande, les bénéfices ont à Amnesty, ça s'appelle Chimes of Freedom, on m'excusera si je fais des fautes de prononciation.
Chimes of Freedom. Pas toi, parle bien anglais.
C'est disponible sur internet, sur le site d'amnesty.fr.
Et si vous passez au Festival Rock, c'est possible qu'on en ait à vendre aussi.
Il y a bien des chances pour qu'on en ait effectivement pour le public.
Ah ben bah, faut me le dire, c'est moi qui fais les commandes.
Mais t'étais pas à la réunion hier soir.
Non mais ça c'est la
cuisine. Ah il cache des choses. Non mais, il est très bien,
C'est la cuisine interne, on va pas.
Non mais c'est intéressant.
Ah bah si, mais si vous achetez à Amnesty, parce que vous le trouvez dans le commerce, mais Amnesty.
Bien sûr.
Les sous nous permettent de fonctionner. Bien vous raconterai ça tout à l'heure.
Oui, tout
c'est
à
bien.
Fait. Ça fait un enchaînement par rapport à ce que tu vas aborder tout à l'heure. Là donc on avait prévu de faire un petit jeu. Donc Edith va tout vous raconter.
Eh bien, vous pouvez aller sur un site qui est très très intéressant. C'est défendons l'asile en un seul mot .com. Et vous allez voir, il y a des petits quiz avec des questions-réponses justement sur l'asile, parce qu'on vous en raconte, on vous en dit, on vous en fait croire. Allez voir et faites votre opinion vous-même.
Voilà, par exemple, on va faire quelques questions. Idée reçue numéro 1, en 2011, quel était le premier pays d'accueil des réfugiés dans le monde ? Alors, il y a le Pakistan, l'Iran, la France, l'Allemagne.
Alors, attendez, répétez,
Quel était le premier pays d'accueil de réfugiés dans le monde en
2011. Alors, on leur donne combien ?
Je crois que ce n'est pas un pays européen, déjà.
Oh bah si, c'est la France, attends, il y a tellement de réfugiés.
Il y a certains hommes politiques qui nous bassinent les oreilles sur la France qui est
envahie par l'Allemagne, parce que oui, non
c'est pas l'Allemagne non plus. Moi je crois que c'est pas européen, mais bon, je peux me tromper.
Pourtant la France était un pays terre d'asile hein, quand même, il l'a longtemps été.
Alors réfléchissez, Pakistan, Iran, France, Allemagne, allez. Je
ne dis plus rien moi.
Alors
Allez, les militants d'Amnesty,
la réponse, c'est le Pakistan
et qui n'est pas en Europe.
Mais pourquoi ?
Le Pakistan n'est pas en Europe, ça c'est vrai, c'est une vérité géographique.
Non, mais j'avais donné un petit indice.
Mais bien. Les réfugiés, ils viennent tous en Europe, pourquoi c'est le Pakistan ?
Parce que le Pakistan se trouve juste à côté de l'Afghanistan. Ceci est une explication de cause à effet.
Alors, on va dire plutôt que les réfugiés, ils vont juste dans le pays d'à côté, ils ne cherchent pas tous à gagner l'Europe.
La plupart.
Alors moi, je vais vous donner des chiffres.
Mais ils préfèrent rester dans leur pays. Hein.
Tout à
Au départ, oui.
Pakistan, 1,9 million réfugiés. Iran, 1 million. Allemagne, 590 000. France, 160 000.
Septième pays d'accueil de réfugiés en 2011.
Alors, on va peut-être arrêter de nous faire croire des trucs.
Ouais, parce qu'à la radio, je n'avais pas compris ça, moi. Dans d'autres émissions, je veux dire.
Ah oui.
Je ne parle pas de notre émission à nous.
Alors, je peux me faire plaisir.
J'étais étonnée par ta remarque.
Je peux me faire plaisir parce qu'il y a une petite remarque sur ce quiz. Et le texte me plaît quand même parce que c'était dit. Donc, Amnesty, quand même, allez, hein, c'est vraiment un site Amnesty. Dans ces conditions, peut-on réellement parler d'afflux biblique, entre guillemets, comme l'a fait un ministre italien des Affaires étrangères lorsque quelques dizaines de milliers de ces personnes arrivent sur les côtes italiennes. Alors, c'est vrai que c'est un gros problème d'accueillir des gens. Mais voilà, on remet les choses dans la bonne tranche. Ce n'est pas nous qui avons tous les réfugiés. Ils restent le plus proche de leur pays. Ne jetons pas plutôt avec des peurs au mépris des vies humaines en danger. Réfléchissez.
Parce qu'on attendait aussi d'avoir beaucoup de gens qui allaient arriver de Libye aussi. Mais bon.
Ben oui,
j'ai cru entendre dire ça aussi, mais bon.
Voilà.
Alors, une deuxième
idée. Une invasion qu'on nous parlait, je crois.
Alors, deuxième idée
deuxième
reçue.
Deuxième question du quiz, Sabine.
En 2011, en France, il y a eu 8 demandeurs d'asile pour 10 000 habitants, 8 demandeurs d'asile pour 5 000 habitants, 8 demandeurs d'asile pour 1 000 habitants.
Alors, on peut faire un calcul, je pense, par rapport à la réponse précédente.
Si tu connais il est bon, Ronan.
Si tu connais le nombre d'habitants en France.
C'est pas idiot comme forme.
Alors, je vous rappelle,
ça oblige à faire un petit peu d'arithmétique mentale. Un peu d'arithmétique mentale.
Si on multiplie ça par le nombre d'habitants, on rajoute les zéros. Allez, vas-y, Ronan, dis-nous.
Ronan, t'es fort en maths. Vas-y.
Ah ouais, la bonne réponse.
Ah ben voilà, il n'a pas fait le calcul.
J'ai pas fait le calcul.
Alors.
Mais quand j'ai fait le quiz, j'avoue que je me suis planté sur cela.
Alors moi, je vous donne la réponse, après vous allez calculer. La France est le pays qui accueille le plus de demandeurs d'asile en Europe, c'est l'idée reçue. Est-ce que c'est vrai ? Eh ben non. La France, elle en accueille 8 pour 10 000.
Et c'est le septième pays.
Voilà, je peux vous en citer d'autres. Le Luxembourg, il en accueille 43 pour 10 000. La Suède, 32. La Belgique, 24. L'Autriche, 17. Chypre, 16. Et le premier, c'est Malte, 44.
Et la France, 8 pour 10 000.
Donc, ce n'est pas le premier pays d'accueil.
C'est vrai qu'on n'aurait jamais pensé que la Suède était...
Et en plus, la France se trouve reléguée en 7e place en 2011 et à la 10e par rapport à la période 2007-2011, si on fait un comparatif.
Oui, ça fait mal.
Non, ça remet bien les choses.
Oui,
non, ça, voilà.
C'est des démentis par rapport à un certain bourrage de crâne.
Voilà. N'oubliez pas qu'il y a les élections bientôt, pensez-y. Alors, allez, une petite troisième. À votre avis, en combien de temps aujourd'hui en France les demandes d'asile sont examinées ? Quelques heures ? 15 jours ? 96 heures ? Plus d'un an ?
Attends, est-ce que la question, ça veut dire, est-ce que le dossier du demandeur d'asile est examiné en quelques heures ou est-ce que c'est examiné sur plus d'un an avec quelqu'un qui fait que ça pendant un an pour voir
alors,
le...
alors, des fois, elles sont examinées en cinq minutes puisque nous sommes allés soutenir quand même une famille qu'on salue.
Non, mais c'est pas ça la question.
Et ils
la
examinent plusieurs cas en même temps, en cinq minutes.
Non, mais la question n'est pas là.
C'est pour ça que j'ai posé une question piège exprès, j'ai déformé la question, en fait. Mais c'était pas ça la question.
Alors, l'idée reçue, c'est il est trop facile d'obtenir l'asile en France. Un peu, c'est ça. L'idée reçue.
Oui, il suffit d'arriver et puis de dire j'ai été maltraité chez moi et en gros on est adopté quoi. Il y a certains hommes politiques aussi qui font leur chou gras de ce genre d'affirmation.
Alors que je crois que c'est des années, non ?
Alors c'est compliqué. Là, je vous dis honnêtement, la réponse est compliquée, mais bon, je vous la donne parce que tout est vrai. Quelques heures, quelques jours, deux semaines ou plus d'un an. Tout dépend à quel moment on rencontre le demandeur d'asile. S'il se trouve à la frontière, sur le territoire. Si sa demande d'asile va être examinée en quelques heures, en 96 heures, en quelques jours ou pendant plus d'un an. Donc les chiffres, par exemple, en 2010, 2184 personnes ont demandé l'asile à la frontière. 26% d'entre elles ont reçu un avis positif pour entrer. Les autres, voilà, vous imaginez bien, retour. Alors pour quelques jours, le chiffre, 1096 personnes ont demandé l'asile dans des centres de rétention en 2010. Le nombre d'accords est inconnu d'Amnesty. Parce que là, effectivement, il est examiné en quelques jours, mais on leur demande d'avoir un traducteur, on leur demande d'avoir des papiers, alors que ces gens-là ont fui les pays pour des raisons vraiment très très importantes et pas du tout pour un choix de vie. Et deux semaines, là, c'est sur le territoire des personnes qui ont des procédures accélérées. 15 jours au lieu de 145 en moyenne. Et là, c'est pareil, ils n'ont pas d'hébergement, ils n'ont pas de moyens de subsistance. Le temps est toujours très rapide pour un demandeur d'asile qui doit expliquer très vite qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, le chiffre, c'est 26% des demandeurs d'asile qui ont été concernés par une procédure accélérée en 2010. Et plus d'un an. Alors, si la procédure d'asile dure plusieurs mois, c'est parce que la demande a été trop souvent rejetée par une première fois par l'Office français de la protection des réfugiés, l'OFRA. Il y a eu 89% qui ont été rejetés en 2011. Les personnes doivent alors faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile pour faire valoir leurs droits. En 2010, 86% des demandes ont été rejetées par l'OFRA et la durée moyenne de la procédure d'asile est estimée à 19 mois. Et voilà, c'est un très, très lourd parcours. Et malheureusement, il y a plein de gens qui ne vont pas jusqu'au bout et pour qui les conditions de demande d'asile sont, on va dire, elles existent toujours, mais de plus en plus compliquées, voire peut-être un peu restrictif. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Absolument. Et l'OFPRA a des attitudes et des manières de faire qui ne sont pas très catholiques.
Alors, on ne va pas dire l'OFPRA, on va dire qu'ils ont
des
ordres.
Ils ont des directives.
Ils ont des directives.
Ah, mais l'OFPRA...
voilà. Ce sont des fonctionnaires, ils ont des directives.
Voilà.
Donc, c'est les directives qui font changer.
Sauf que ce sont des gens, ils ont affaire à des gens qui, la plupart du temps, craignent pour leur vie. Et ils sont obligés de tout justifier. Voilà.
Mais là aussi, on leur avait demandé de faire du chiffre.
Voilà. C'est serait, enfin c'est... tout est transformé.
C'est les ordres qui leur...
Peu importe, ces gens-là, ils travaillent et les ordres viennent du dessus et font partie aussi des fonctionnaires français. Et je trouve inadmissible que d'entrée, on prenne comme ça. On les remet en cause.
Bon, là, et Sabine, là, les combattantes. Là. Mais
L'OFPRA,
nous, on est sur les textes.
On aimerait bien qu'ils changent un petit peu de manière de faire.
Ça, ouais, c'est au-dessus de faire changer.
Voilà. Sabine s'indigne sur les instances françaises qui sont complètement critiquables. Absolument. On est tous d'accord. Une petite information quand même sur le temps. J'ai fait une plaisanterie tout à l'heure sur le temps de la durée du dossier pour un demandeur d'asile. En fait, le chiffre qu'on connaît, puisqu'il nous a été communiqué par Amnesty, le chiffre qu'on connaît en moyenne pour étudier un dossier d'un demandeur d'asile fait par un fonctionnaire de l'OFPRA, Sabine vient d'en parler, le temps moyen, c'est 2 heures. Les fonctionnaires de l'OFPRA, on leur demande jusqu'à présent de traiter 4 dossiers dans la journée. C'est-à-dire qu'ils ouvrent le dossier, ils ne sont pas au courant de ce qu'il y a dedans. Donc il faut qu'ils en prennent connaissance, qu'ils reçoivent la personne et qu'ils émettent un avis. Ils ont 2 heures pour le faire. Effectivement, ça n'a rien de sérieux. Il faut parler clairement.
Et ils sont très forts parce qu'ils arrivent à traiter 2 dossiers au même moment, à même heure.
Peut-être.
En remettant en cause les 2 personnes. Alors là, chapeau.
Et on peut faire aussi un rapport avec la famille Bassane. On en a déjà parlé à l'émission précédente. La famille Bassane qu'on défend ici au niveau du comité, dont on fait partie.
Soutien.
est effectivement demandeur d'asile, puisque leurs droits ont été bafoués en Mongolie intérieure, en Chine, et pour l'instant, leurs demandes ont été toutes refusées. Les recours sont en cours, si on peut dire, mais jusqu'à présent, la situation pour eux est négative.
Et tu restes une petite question, je crois, non ?
À revoir. Allez, encore deux questions.
On n'arrête pas de jouer.
Les réfugiés ou demandeurs d'asile sont-ils des sans-papiers ?
Les réfugiés ou demandeurs d'asile sont des sans-papiers.
Vrai ou faux ? On est réfugié ou demandeur d'asile et on est des sans-papiers ?
Bah là, je sèche.
Vrai ?
Alors moi, je vous dis, l'idée reçue, c'est un peu les réfugiés, les demandeurs d'asile, bon, c'est tous des clandestins, ceux-là.
Mais ils ne sont pas obligés d'être sans-papiers. Tu peux être réfugié et avoir des papiers.
Absolument.
Voilà, les réfugiés et les demandeurs d'asile sont autorisés par les préfectures à rester légalement sur le territoire français. Si on est réfugié, on peut avoir un titre de séjour de 1 à 10 ans, selon la protection accordée. Si on est demandeur d'asile, on a une autorisation provisoire de se maintenir sur le territoire le temps de l'examen de la demande d'asile dont on vous a parlé précédemment. Vous suivez un peu l'histoire maintenant ?
Oui, je pense que quand même. Si on s'efforce de comprendre le mécanisme, on comprend.
Allez, une petite dernière. Depuis 10 ans, chaque année, la France doit faire face à une augmentation du nombre des demandes d'asile.
Oh, ça me rappelle des paroles de politique.
Alors, c'est
ça.
Vrai ou c'est faux ? Est-ce qu'ils nous mentent ? Oh, ils n'oseraient pas.
Alors, l'idée reçue, c'est qu'il y a toujours plus de demandeurs d'asile qui arrivent en France.
Oh, il y en a de plus en plus.
Eh bien, c'est faux. Il y en a moins qu'en 2001.
Moi, je croyais pourtant.
Alors, on va moduler. On va dire que, déjà, en termes réels de chiffres, en 2011, on en a environ... Allez, on met le petit bonhomme en haut, parce que moi, j'ai le graphique, il faut que je traduise. 40 000. En 2001, il y en avait entre un peu plus de 40 000. En 2003, il y en avait 50 000 qui étaient des demandeurs. Donc, ça, on part au début, hein. Ils font la demande.
Ils sont que demandeurs.
Donc, qu'est-ce qui change ? Eh bien, c'est l'apparition de conflits ou de périodes d'instabilité politique qui font que ça augmente un peu, que ça diminue. Hein. Et donc, dans certains pays du monde, les demandeurs d'asile ne quittent pas leur pays par choix. Mais ils sont en général obligés de le faire à un moment donné pour fuir une menace, une atteinte à leur vie. À noter qu'en France, les demandeurs d'asile sont moins nombreux aujourd'hui qu'en 2001. Donc voilà.
Donc il n'y a pas d'invasion, c'est pas vrai.
C'est pas vrai, mais il y a à soutenir le droit d'asile. Voilà. Il faut qu'il existe, qu'il soit plus simple,
moi,
et qu'il corresponde vraiment,
qui
corresponde vraiment à des gens qui sont dans des situations. Imaginez, on part de chez soi, on quitte tout, on arrive ici, on est moins que rien. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Et on est en France.
Et on doit justifier le fait d'être moins que rien.
Mais ça veut dire aussi que si les droits fondamentaux des gens étaient dans l'ensemble des pays, étaient beaucoup mieux respectés.
Mais ils resteraient chez eux.
S'ils avaient des conditions décentes de vie, de travail, etc. etc. Ah. Bien sûr que la situation des migrations de population...
Avec Dessy, je te rappelle le monde,
moi. Il faut être positif.
Mais voilà.
Sabine, je te rappelle quand même qu'Amnesty fonctionne avec Dessy, inévitablement, comme tous les gens qui militent.
Je suis en train de lire le livre, justement, je l'ai commencé que hier soir, dessus les réfugiés. C'est vrai qu'il commence le livre par ça, justement.
Ouais. Bien sûr. Alors,
les réfugiés n'ont pas envie de partir de chez eux.
Les réfugiés, c'est pas eux qui demandent, contrairement aux idées reçues qu'on entend. Oui, les gens viennent en France parce que machin, tout ça. Mais c'est pas eux qui ont choisi.
Je ne pense pas qu'ils aient fait le choix de laisser leur maison, leur famille, etc.
Mais non, on est tout à fait d'accord. Mais c'est encore une idée reçue, ça.
Donc, faut peut-être considérer l'humain.
Que les gens
viennent
en France
humaine.
Pour nous prendre notre travail, machin.
Et allez voir sur le site. Vous avez des témoignages. Et là aussi, ça parle encore plus que notre petit jeu là qu'on a essayé de faire un peu plus léger que d'habitude.
Et à prendre des bateaux au risque de leur vie pour traverser la Méditerranée, c'est pas aussi pour s'amuser qu'ils le font. Ouais.
Je pense qu'en conclusion du moment, on peut dire que les gens qui sont atteints dans leurs droits, ce sont les gens qui sont amenés dans la situation de réfugiés. C'est en aucun cas la situation des pays, enfin des ressortissants des pays qui les accueillent, qui ne sont pas du tout atteints dans leurs droits.
Tout à fait.
Un peu de musique, une bonne nouvelle. Moi, je ne sais jamais avec Ronan. Qu'est-ce qu'il va faire ?
J'allais faire une action urgente.
Allez, une action urgente.
Une action urgente rapide.
Voilà, je pense que c'est une bonne idée de passer de la théorie à la pratique, puisque Sabine parlait qu'on fonctionne beaucoup avec des si maintenant. Renan va vous dire comment ne pas fonctionner avec des si, mais comment passer
faire,
à l'acte.
Allez, action.
Bah, absolument.
Mais c'est très simple, hein, il suffit de prendre un stylo.
Oh, il y a un beau voilà. thème, action-réaction. Allez, voilà, hop, vas-y. Allez.
Donc, je vais lire la petite action urgente.
Donc, nos signatures ont du pouvoir. Ne vous retenez pas.
Ah non, mais ça fonctionne. Tout à l'heure, avec le code de Patrick, on a très bien vu. Bon, ça a attendu 14 ans, mais aujourd'hui, il est libre.
Oui, mais attends.
Alors, tu vas nous présenter une action de 14 ans. Vas-y, commence.
Allez.
Non, ce n'est pas une action de 14 ans.
Achetez des timbres, alors. Ça va durer longtemps.
On est un peu dissipé ce soir. Ça doit être, les chaleurs du printemps dans le studio. Allez, vas-y, Renaud.
Non, donc l'action, donc, c'est en Colombie. C'est vrai qu'on parle souvent de la Colombie. Qu'est-ce qu'il y a, Sabine?
S'il y a des mots, Sabine, elle lit. Vas-y, Renaud. Tu vas lire l'espagnol.
Il n'y a aucun mot compliqué.
Oh, zut.
Donc, c'est une action qui est simple. C'est une crainte pour la sécurité d'un dirigeant paysan. Le dirigeant paysan Hernán Henri Díaz a été vu pour la dernière fois le 18 avril 2012 alors qu'il organisait une manifestation. Il est possible qu'il fasse l'objet d'une disparition forcée dans le département du Putumayo, dans le sud de la Colombie. Hernán Henri Díaz, porte-parole de la table ronde départementale des organisations sociales du département de Putumayo, est membre de la Fédération nationale syndicale des travailleurs du secteur agricole. Il a été vu pour la dernière fois le 18 avril. En tant que dirigeant paysan, il coordonnait la participation de 200 délégués venant de la municipalité de Val del Guamuez.
Allez, retenez le refait, Sabine.
Non, tu n'as pas la forme, là, Sabine.
Non, elle veut pas.
Je veux que tu me montres. Je ne connais pas celui. J'y suis pas allée, là.
Ah, tu n'as pas été là-bas.
À Putumayo, oui.
Mais je peux te dire que c'est un département. Justement, c'est un département du Putumayo.
Restons au sujet, sinon ça va distraire les auditeurs et voilà. Les auditrices.
Ouais, il faut qu'on l'aide.
Tout à fait. Donc, il coordonnait la participation de son délégué à une manifestation prévue les 21, 22 et 23 avril à Bogota. Le 18 avril, il envoyait un SMS à sa compagne, lui disant qu'il était à Puerto Vega et qu'il arrivait. Personne n'a eu de ses nouvelles depuis. Il y a quelques mois, Hernán Henri Díaz s'est rendu à Bogota pour alerter les autorités au sujet de la crise humanitaire et des droits humains qui sévit dans le département du Putumayo. Il s'était entretenu avec des représentants du gouvernement et des membres de la communauté internationale, notamment des employés d'ambassade, et a exposé plusieurs affaires de violation des droits humains. Par le passé, des organisateurs de mouvements de protestation ont été victimes de manœuvres, d'intimidation et de harcèlement, parfois de disparitions forcées ou d'homicides. La sécurité de Hernán Henri Díaz suscite de plus vives inquiétudes, étant donné que des hauts responsables des forces de sécurité affirment que des guérilleros se sont mêlés aux manifestants. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est tout simple. Si vous êtes intéressé par l'action, vous nous envoyez un mail dessus notre site que va nous dire... Je ne me rappelle jamais l'adresse exacte.
Amnesty.evreux.
Non, mais c'est pour les faire parler.
@gmail.com.
Donc, et là, pas d'erreur.
Donc, si vous êtes intéressé, vous êtes intéressé par l'action de Colombie. Moi, je vous ai prémâché le boulot.
La lettre est faite.
La lettre est faite, elle est sur mon ordinateur.
Oui, mais il passe ça très bien.
Vous nous envoyez un mail, on vous envoie la lettre. Voilà.
Donc, la lettre est toute simple parce qu'on demande notre inquiétude quand la sécurité d'Hernán Henri Díaz.
On veut savoir.
Donc, on demande autorité de faire le nécessaire justement pour savoir ce qui s'est passé parce que, comme je vous l'ai dit, il envoyait un SMS à sa femme.
Et depuis, plus rien.
Plus rien. Voilà. Et c'était un défenseur des droits humains.
Donc, syndicaliste en plus. Alors.
Amnesty, avec un Y à la fin, amnesty.evreux@gmail.com.
Bon, nous allons repasser peut-être un
mosaïque.
Quelques secondes de musique parce que leur tourne.
Ouais, mais il dure pas longtemps ce morceau-là.
Mais quelques
allez,
secondes, allez, vas-y.
Un petit morceau là.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Is how many years can a mountain exist before it's washed to the sea? And how many years can some people exist before they're allowed to be?
Can a man turn his head, pretending he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hey, how many times must a man look up before he can see the sky? And how many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? Hey, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer is blowing in the wind. Yes, the answer is blowing in the wind. And so the answer is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Blowing in the wind.
Eh bien, retour sur l'antenne de Principe Actif. On vient donc d'écouter un classique de Bob Dylan, toujours sur le même album de compilation, Chimes, je ne sais pas comment on prononce, Chimes of Freedom. Et donc d'Amnesty, c'était Ziggy Marley qui chantait Blowing in the Wind, un des
le
titres
de Bob.
On a bien aimé.
Bob,
hein.
Un des titres Bob. Phares de Bob Dylan. Encore une fois, ce disque est en vente www.amnesty.fr. Donc,
je sens que c'est à moi.
Puisqu'on parle de vente de disques.
Allez, les sous.
Voilà, nous allons continuer à parler d'argent.
Alors, on vous a dit qu'on était le 20 mai à la salle Expo. Il y avait des artisans. Alors, les artisans, ils vendent ce qu'ils veulent. Hein. Ils nous payent simplement un peu pour les tables, les chaises, comme pour une foire à tout. Donc ça, c'est les sous qu'Amnesty Evreux récupère. On vend aussi des livres à la foire aux livres. Ça, c'est les sous qu'Amnesty Evreux récupère. Mais on les récupère pourquoi ces sous? Et vous exagérez. Mais non, on les récupère parce que nous, on les redonne à Paris pour que le mouvement y fonctionne.
Ah, je croyais qu'on les mettait dans notre poche.
Mais non, t'en as pas dans ta poche, regarde bien.
Ah non, c'est vrai, moi j'ai toujours les poches percées.
Hein? Alors voilà, donc il y a juste un petit article parce qu'Amnesty a refait tout de suite une campagne publicitaire. Bon, nous on n'aime pas la campagne publicitaire, on ne la comprend pas bien. Donc on va vous expliquer avec nos mots.
Il y a un clip qui est sur le site, voilà. Qui n'est pas très parlant.
Qui n'est pas terrible, on n'a pas aimé.
Il est très dur, mais bon.
Donc Amnesty, c'est l'une des rares organisations non gouvernementales à être indépendante financièrement.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, je vous fais un peu d'histoire quand même. Amnesty, ça a été créé en 1961. Alors, pour les jeunes qui écoutent Principe Actif, c'est « Waouh, ça fait longtemps !» Eh bien, à cette époque-là,
c'est au siècle dernier.
Le monde était partagé en deux blocs. C'était la guerre froide, l'URSS et ses soutiens d'un côté, les États-Unis et ses alliés de l'autre. Encore. Donc, quand Amnesty est arrivé, on s'est dit « Ouh, comment faire pour qu'on ait l'air un peu... » Nous, objectif. Donc, toute action en faveur des droits de l'homme risquait d'être instrumentalisée par l'un ou l'autre de ces deux blocs, explique Geneviève Garrigos, la présidente d'Amnesty. Dès le départ, il y a eu cette volonté de se placer en dehors de cette fracture politique. Moi, je me rappelle, parce que je suis un petit peu vieille, allez, on va le dire carrément, que quand on avait un prisonnier d'opinion, il y en avait un du bloc soviétique et un autre du bloc occidental, pour vous montrer qu'on ne privilégiait pas l'un par rapport à l'autre. Donc, alors vous comprenez bien que pour nos sous, eh ben on était aussi hyper prudents. Donc, on n'accepte aucun soutien pécuniaire de la part des États. Ben, ça semble logique parce qu'on va aller un peu fouiller ce qui se passe chez les États. L'ONG demeure impartiale et donc à même de dénoncer les violations des droits humains n'importe où dans le monde sans être suspectée d'en prendre part. Aujourd'hui, même si la situation géopolitique a changé, cette exigence est restée une nécessité. De ce fait, Amnesty n'accepte des soutiens financiers de grandes entreprises. Car là aussi, on va aller voir un peu comment ça fonctionne les droits humains dans les entreprises et la notion d'éthique à la mode des entreprises et à la mode d'Amnesty droits de l'homme. Ce n'est pas forcément la même. Afin de se prémunir de toute récupération politique, Amnesty a donc fait de son indépendance financière une valeur fondamentale. Et cette dernière, elle est d'autant plus précieuse qu'elle permet à chaque individu de pouvoir bénéficier d'un recours effectif en cas d'abus. Car on va dire Amnesty, l'État ne va pas dévoiler lui-même les violations qu'il commet. En fait, Amnesty révèle ce que les États veulent cacher. Amnesty œuvre pour que les libertés de chacun soient respectées et ce sont bien les citoyens qui sont au cœur de l'action en finançant l'ONG. Nous sommes un mouvement d'individus, dit Geneviève Garrigos, la présidente d'Amnesty. Et il est donc très important que ce soit eux qui s'engagent pour faire respecter leurs droits. Ainsi, chaque année en France, près de 170 000 personnes contribuent-elles au fonctionnement de l'association en envoyant de 10 jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Alors là, un peu de chiffre quand même, parce que là, ça explique bien. 2009-2010, 74% des ressources d'Amnesty proviennent de dons, de legs, soit 11 579 000 euros.
On parle d'Amnesty, c'est française.
Voilà. 24% restants ont été générés par les ventes des produits de soutien, quand vous nous achetez des produits, comme le fameux disque dont on vient de parler,
Chimes
les cotisations
freedom.
Des membres.
Je suis en train de le montrer, mais je suis bête, on est à la radio.
Non, mais il le montre très bien, là. Franchement, vous l'auriez vu et vous l'achetez tout de suite. Hein.
Les cotisations des membres.
Donc, les cotisations des membres, ben, nous, on paye pour être Amnesty. Vous vous rendez compte? Et
nous,
en plus, on travaille.
On paye, absolument, on paye notre cotisation.
Alors,
comme tout le monde.
Vous n'êtes pas obligé de tous payer et travailler. Vous pouvez prendre une cotisation et être simplement sympathisant. Vous pouvez aussi prendre un abonnement à La Chronique, un super journal qui vous donne plein d'infos.
Et on ne refait jamais un coup de main non plus.
Voilà, donc les cotisations des membres, les abonnements, ça fait pratiquement 4 millions d'euros. Donc au total, c'est comme ça qu'on arrive à récupérer 15 millions d'euros pour pouvoir faire fonctionner le mouvement. Les gens ne sont pas toujours conscients qu'Amnesty a besoin d'argent, dit toujours notre présidente. Ils imaginent que préparer une pétition, ça ne coûte pas cher. Mais alors attention, avant, il faut avoir été dans le pays, préparer un travail de recherche, ainsi que des besoins matériels. Tout ça, ça demande des sous. Parce qu'Amnesty, quand on a une info, elle a été vérifiée. Donc, il est très important pour Amnesty que le public comprenne un peu comment on fonctionne et puis qu'ils n'hésitent pas à donner. Parce que là, vraiment, ça va directement. Mais alors, je vous assure, directement pour le soutien des droits humains dans le monde et la défense des droits humains. Voilà. Alors, vous pouvez aller voir le clip. Il va peut-être vous expliquer plus. Et puis, bah, soutenez-nous par toutes les formes que vous voulez.
Oui, venez nous voir.
Et il faut rappeler toujours et toujours qu'Amnesty non seulement Amnesty ne demande et n'accepte aucune subvention d'aucun État, d'aucun parti politique ou d'aucune structure officielle, quelle qu'elle soit.
Voire d'aucune municipalité.
Ça va jusque-là.
Voilà, on a de l'aide et on le reconnaît, mais on ne demande pas d'argent. Et c'est ça qui nous permet, devant les pouvoirs publics et les puissances étrangères, de représenter un contre-pouvoir réel, un mouvement de personnes, d'individus, un plus un, incontournable et bien décidé à protéger les libertés.
Bon, bah, je pense que maintenant, tout le monde est convaincu.
C'était clair, hein, quand même. Hein.
Et de rester indépendant.
Même tout moi, j'ai compris.
Et même quand on ne peut pas donner d'argent, on peut aller signer les pétitions.
Tout à fait, voilà.
On peut aussi donner du temps pour ceux qui nous écoutent et qui ont du temps à donner, même s'ils n'ont pas les moyens. On est toujours...
On vous rappelle, 700 pétitions signées, on est très bon à Évreux pour les pétitions.
Voilà, nous contacter sur le mail, on est preneur aussi de coups de main matériels, il n'y a pas de souci.
Et si vous avez des idées d'action, on est preneur aussi, il n'y a pas de problème.
Venez avec nous aussi, parce que là...
Je regarde la pendule avec un œil inquiet.
Allez.
Inquiet.
Agenda.
Donc, nos informations locales et ce qui va se passer. On sera présent au Festival Rock le 29
et
le 30, comme tous les ans depuis longtemps. On ne vous en dira pas plus, si ce n'est qu'on vous prépare une petite surprise
avec
les organisateurs du festival. Et donc, on aura le stand, bien sûr, mais on aura un tout petit peu plus que ça.
Ne nous torturez pas, on n'est pas au courant.
Ne nous torturez pas.
Non, mais c'est
Amnesty.
Que pour du bien.
C'est
que
pour du bien. Jeu de mots.
Donc venez nous voir, c'est notre prochaine.
Mon oui, Ronan.
C'est notre
prochaine. C'est notre prochaine présence importante. Je vous rappelle que l'an dernier au Festival Rock, tous les jeunes qui étaient là et on les remercie encore, nous ont fait battre tous les compteurs de signatures, de pétitions et de mobilisation. Et même, je pense qu'on a battu tous les records au niveau d'un groupe local sur un festival comme ça.
Et un record est fait pour être battu.
Absolument.
Donc, année,
là, on remet tout en jeu. Voilà. N'hésite pas.
Autre chose de notre actualité, là c'est à plus long terme, on rappelle effectivement que maintenant on a un local qui est en cours d'aménagement et que donc on peut recevoir des livres pour alimenter notre foire aux livres.
Voilà, foire aux livres, sous cotisation, voilà, Amnesty, je vous refais le truc.
Edith vous a expliqué à quoi ça servait aussi la foire aux livres. Ça sert à vous rendre service pour trouver des bouquins. Ça sert aussi pour nous à nous financer, c'est clair. Donc, si vous avez des livres à nous offrir, n'hésitez pas, contactez-nous à amnesty.evreux@gmail.com. On vous répond, on s'organise et on récupère vos bouquins. On est prêt à se déplacer pour aller en chercher.
Pas trop loin,
mais on peut faire des efforts aussi.
Même voilà.
Et si votre salle de réunion n'est pas terrible, changez-la. On reprend des tables et des chaises.
On prend les tables, les chaises.
Oui, on prend les frigos. Très bien, effectivement, on cherche, On cherche encore du matériel de bureau pour continuer à aménager le local.
Alors, du solide, parce que les livres, c'est lourd.
On devrait terminer l'aménagement ce mois-ci, si tout se passe bien, et donc être opérationnel.
Un écran, tout ça, parce qu'on la fera vivre, la salle, après.
Être opérationnel aussi pour le public à partir du mois de septembre. Mais on
va dire dernier trimestre,
on
Didier.
Parlera.
Mais parce qu'il y a des vacances, on peut peut-être prendre quelques vacances, non?
Mais enfin, bon, ce local, voilà. Ce local nous rendra bien service. Oui, on va devoir s'arrêter, de toute façon. On rappelle que notre prochaine émission, c'est quand? Question à Ronan.
C'est le dernier mardi.
C'est le dernier mardi avant le festival.
Ça donne quoi comme date? Ça donne
quoi avant comme le festival
date? Oui, d'accord. Okay.
Qui est le 29 et 30, ça serait le 24, 25.
Le mardi 24, je pense que ça doit être ça. Le mardi 24 juin, 19h, en direct.
On fera un best-of de l'année actif. Allez.
On fera un best-of de l'année. On fera
plein de choses.
Et moi, j'ai passé une petite info qui n'a rien à voir avec Amnesty, mais j'ai promis à un collègue de passer l'info.
Oh là là.
Mais bon, c'est comme la bonne cause. C'est pour parler d'aller le 16 juin à la Bonne Ville sur Iton pour le festival La Bonne Fête. L'entrée est gratuite, il y a des groupes sympas.
Ah, oh, un festival.
Voilà, c'est pour un petit festival, j'ai promis de passer l'annonce. Donc,
je corrige une grosse erreur qu'on vient de me souffler à l'oreille très justement, c'est que c'est le mardi 26. On a dit 24.
Le 26. Donc, ouais, bah, ils auraient repéré.
Donc, entre nous,
et ça, c'est bien avant le festival.
C'était un quiz. C'était la dernière question du quiz.
Allez,
ça regarde pas les auditeurs, mais Ronan n'est pas très bon sur les calendriers.
Ah non, mais j'ai dit au hasard. Attends,
moi, et moi encore moins. Allez.
Mardi 26, principal actif, on sera là.
Et après le rock. Allez,
à tous.
À bientôt.
About our ways, but